Un homme, le chevalier des Grieux, et une femme, Manon Lescaut. Le titre de ce roman résonne déjà comme un couple mythique. Adam et Ève, Roméo et Juliette. Avant même d'ouvrir le livre, le lecteur peut s'attendre à une histoire d'amour. Séparés pendant 2 ans, leur retrouvaille est un deuxième coup de foudre. En fait, Manon et Desgrieux déploient à chaque étape des ressources étonnantes pour se retrouver malgré les obstacles. C'est un thème récurrent dans la comédie. L'amour décuple nos capacités. Harlequin poli par l'amour, l'école des femmes. Mais c'est aussi un thème de tragédie. L'amour peut mener à un destin funeste. Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi. Je lis ma destinée dans tes beaux yeux. Mais de quelle perte ne serais-je pas consolé par ton amour ? En fait, ce mélange des genres est très romanesque. Pourquoi ? Parce que les personnages évoluent, on assiste à une véritable quête initiatique, où l'amour se distingue petit à petit des passions néfastes. « C'est au Nouvel-Orléans qu'il faut venir, » disais-je souvent à Manon, « quand on veut goûter les vraies douceurs de l'amour. C'est ici qu'on s'aime sans intérêt, sans jalousie, sans inconstance. » Tout l'intérêt de cette histoire se trouve donc dans notre repérage des passions qui interfèrent avec l'amour. Pour Desgrieux, jalousie, désir, souffrance. Pour Manon, goût du luxe, du prestige, des divertissements. L'abbé Prévost, c'est un ancien prédicateur bénédictin. Il pense certainement aux péchés capitaux, envie, luxure, avarice, etc. À la fin, on peut même se demander s'il ne reste pas une passion chez Desgrieux, l'orgueil d'avoir connu une passion exceptionnelle. Les autres personnages complètent ce grand tableau des passions humaines. Monsieur de GM, vieux libertin, son fils recherchant des divertissements raffinés. Monsieur de T qui pousse Desgrieux à la vengeance, et même Tiberge, habité par un zèle excessif. Le roman est censuré en 1733 pour cause d'immoralité. D'abord à cause du personnage même de Manon Lescaut. Dès son apparition, elle ne rentre pas dans les clichés littéraires habituels de la femme de mauvaise vie. Son charme est bien plus dangereux que cela, puisqu'il incarne une quête de liberté que le lecteur peut trouver légitime. Ce qui ajoute à ce plaisir subversif du roman, c'est le dispositif lui-même. L'abbé Prévost invente Renoncourt qui rapporte le récit de Desgrieux. Cela laisse au lecteur tout le soin d'exercer son esprit critique. Dans le prologue, l'auteur déclare que cette histoire doit nous élever moralement, mais on peut tout aussi bien penser que ce n'est qu'un prétexte pour raconter des histoires hautes en couleurs. Libertinage, tricherie, évasion de prison, coup de pistolet, duel, parfaite matière romanesque. Ce n'est donc pas cela qui choque vraiment. Les lecteurs de l'époque sont habitués aux romans picaresques. Non, ce qui choque la morale, ce sont les justifications données. C'est que l'amour semble donner toutes les excuses et détourne de la religion très forte à l'époque. L'amour, quoi qu'il trompe assez souvent, ne promet du moins que des satisfactions et des joies, au lieu que la religion veut qu'on s'attende à une pratique triste et mortifiante. Mais si on y regarde de plus près, l'abbé Prévost ne donne jamais véritablement raison à aucun de ses discours. Il est lui-même un aventurier. Ayant quitté les ordres en 1728, il voyage beaucoup, rencontre Lenki Eckhart, avec qui il vivra des aventures comparables à celles de son roman. L'abbé Prévost hérite de toute une tradition moraliste du XVIIe siècle, La Fontaine, La Rochefoucauld, La Bruyère, etc. Rompu au genre littéraire du sermon, il est fasciné par la variété des désirs humains. Dans Le Monde Moral, par exemple, il explore les passions humaines, comme si c'était un continent inconnu. Le roman constitue justement une sorte de répertoire des passions néfastes. D'abord, Desgrieux est un enfant innocent, qui, dit-il, n'a jamais songé à la différence des sexes. Mais quand il rencontre Manon, il se met à mentir. Il fut avec elle et ils couchent ensemble dans une auberge, sans être mariés, ce que la religion réprouve évidemment à l'époque. Nos projets de mariage furent oubliés à Saint-Denis. Nous fraudâmes les droits de l'église et nous nous trouvâmes époux sans y avoir fait réflexion. Après un moment de repentance qui n'est en fait qu'un apprentissage de l'hypocrisie, Desgrieux apprend à tricher, fait entrer un pistolet en prison, tue un homme par accident d'abord, affronte Sinelet en duel et le laisse pour mort. La spirale s'arrête quand ils arrivent au Nouvel-Orléans, comme si l'ordre social écrasant de la métropole n'attendait que leur décision de se marier pour les rattraper. Si la quête de plaisir entraîne Desgrieux et Manon Lescaut dans des actions de plus en plus immorales, c'est d'abord parce qu'elle leur impose beaucoup de dépenses. Lorsqu'ils vivent à Paris, c'est pour maintenir leur train de vie que Manon Lescaut rend visite à Monsieur de B. Desgrieux fait un long inventaire de leurs dépenses, pratiquement toutes consacrées au divertissement. Manon était passionnée pour le plaisir, je l'étais pour elle. Il nous naissait à tout moment de nouvelles occasions de dépenses. Après l'incendie de Chaillot, Desgrieux obtient l'aide financière de Thiberge, qu'il investit tout de suite dans son activité de tricheur professionnel. Et quand les domestiques volent leurs économies, Manon se tourne vers le vieux monsieur de GM. Et en effet, la beauté exceptionnelle de Manon a une valeur monétaire. Influencée par son frère, craignant de passer à côté d'une fortune, elle se laisse entraîner. Manon reçoit des cadeaux considérables, argent, bijoux, propriétés immobilières, parfois sur une simple promesse de ses faveurs. Réifié, c'est-à-dire traité comme un objet, l'argent devient un outil de vengeance pour Manon. Il nous faut nous venger du père, non pas sur le fils, mais sur sa bourse. Je veux l'écouter, accepter ses présents et me moquer de lui. L'histoire débute 2 ans avant la mort de Louis XIV et se termine 2 ans après. L'abbé Prévost nous présente un moment déjà perçu à son époque comme un basculement historique. La monarchie absolue se relâche, c'est la fin d'un règne. Pendant tout le XVIIe siècle, les moralistes n'ont cessé de critiquer les courtisans, tentant de corriger les mœurs par le rire, Molière, la Bruyère. Mais beaucoup n'y voient qu'un échec. Quelle grandeur trouve-t-on chez ces derniers aristocrates ? Pendant tout le XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières vont évaluer divers systèmes politiques. En 1789, la Révolution française renverse la monarchie. Donc, sans le savoir, l'abbé Prévost est le témoin des prémices de la fin de l'Ancien Régime. Il meurt lui-même en 1763. On le voit à travers les personnages nobles du roman. Monsieur de B, prenant sa charge de fermier général, possède une richesse suspecte. Monsieur de GM et son fils représentent 2 générations de libertins. Desgrieux est aussi un exemple de décadence, puisque son père lui reproche d'être un fripon qui le déshonore. Pour se justifier, Desgrieux cite de nombreux exemples de vie dissolue, véritable satire généralisée. À chaque faute dont je lui faisais l'aveu, j'avais soin de joindre des exemples célèbres pour en diminuer la honte. Quand Desgrieux entre dans l'association de tricheurs, il y retrouve la plus haute noblesse. On comprend alors que les différentes classes sociales se retrouvent dans le crime. La tricherie au jeu n'est qu'un symbole pour désigner d'une manière générale la truanderie qui se répand dans toute la société. Attention, l'abbé Prévost n'est pas un révolutionnaire, mais plutôt un observateur lucide de la société de son époque et un moraliste désabusé. Il n'imagine pas encore le mouvement des Lumières, mais il pose déjà des questions qui vont aller dans leur sens. Par exemple, l'abbé Prévost dénonce la pitié salpêtrière, qu'on appelle l'hôpital, qui est une institution de Louis XIV qui punit des femmes qui pourtant n'ont pas d'autre choix pour survivre. Outre l'infamie de cette demeure, j'ignorais de quelle manière elle y était traitée, et le souvenir de quelques particularités que j'avais entendues de cette maison d'horreur renouvelait à tout moment mes transports. Le Nouveau Monde n'offre pas vraiment d'échappatoire. Le capitaine, le gouverneur, représente à la fois l'autorité paternelle et royale, un ordre social écrasant qui les empêchera jusqu'au bout de se marier. Cette question du mariage, cloisonnant les classes sociales, structure fortement la société. Manon, par ses fautes ou par nécessité, parmi les prostituées, est d'emblée en marge de la société. Le couvent, où on l'envoie, l'éloigne du monde. Dès leur première rencontre, Desgrieux sort du chemin tout tracé par son rang et ses études. Nous nous entretîmes des moyens d'être l'un à l'autre. Après quantité de réflexions, nous ne trouvâmes point d'autre voie que celle de la fuite. On n'entendra jamais parler des parents de Manon, tout se passe comme si elle était orpheline, et son frère Lescaut se comporte plutôt comme son proxénète. Il propose même à Desgrieux de le mettre en liaison avec une dame vieille et libérale, avant de l'introduire dans la Ligue de l'Industrie. Ainsi, Lescaut symbolise cette passerelle entre les deux mondes. Les jeunes aristocrates, en quête de divertissement, sont accueillis à bras ouverts dans ce monde crapuleux, très intéressés évidemment par leur rang et leur connaissance des mondanités. Ma misère n'était pas celle d'un homme de néant. On rendit grâce à M. Lescaut d'avoir procuré à l'ordre un novice de mon mérite. Dans l'autre sens, l'aristocratie corrompt le peuple. Par exemple, pour faire sortir Manon de l'hôpital, Desgrieux implique le valet, Marcel, qui va quitter son emploi et se retrouver poursuivi par la police, alors que Desgrieux lui-même ne sera pas inquiété. Un argument revient plusieurs fois dans le roman. L'intelligence des petits est là pour réparer les injustices. Après tout, chacun utilise les talents que la nature lui a donnés. La Providence n'a-t-elle pas arrangé les choses fort sagement ? La plupart des grands et des riches sont des sots. Or, c'est un fonds excellent pour le revenu des petits que la sottise des riches et des grands. Il y a des degrés de marge. Les prisons des grands ne sont pas les mêmes que celles des petits, et les colonies constituent bien une ultime prison entourée de déserts. Au-delà de cette marge, c'est la mort. La société décrite par l'abbé Prévost ressemble au cercle concentrique des enfers de Dante. Différentes prisons jalonnent notre roman. D'abord, Desgrieux est séquestré par son père et son frère, mais ses études le ramènent sans cesse à Manon. Deuxième prison, Desgrieux à Saint-Lazare se lie avec le supérieur, obtient une visite de Tiberge, lui fait porter une lettre qui, transmise à Lescaut, lui procure un pistolet. De son côté, on devine que Manon souffre beaucoup à l'hôpital car elle en ressort très amaigrie. On le voit, les prisons ne corrigent pas les personnages, au contraire, elles ne font qu'aggraver la situation. Dernière prison, le Petit Châtelet. Cette fois, ils ne sortiront que grâce à l'intervention du père de Desgrieux. Grâce à son influence, Desgrieux est libéré, mais Manon est condamnée à partir aux Amériques, dernière prison dont elle ne sortira jamais. La valeur symbolique de ces lieux, c'est bien sûr l'absence de liberté, qu'on retrouve sous d'autres formes à travers le roman. Le démon du jeu, la poursuite de l'argent, des prestiges. Tous ces éléments sont autant d'addictions, de passions qui asservissent les personnages. L'héroïsme est un trait du passé. L'ordre de la Croix de Malte, par exemple, que Desgrieux veut rejoindre, date des croisades, toute une propagande médiévale. Le mot « chevalier » dans le titre prend alors une dimension ironique. Desgrieux n'a rien d'un chevalier des chansons de gestes. En effet, souvent l'attitude de Desgrieux n'a rien d'héroïque. Quand il apprend que Manon est à l'hôpital, il s'évanouit. Plusieurs fois, pour la retrouver, il est obligé de se déguiser. Dans l'épisode de sa fuite de Saint-Lazare, il tue un portier alors qu'il pensait que le pistolet était chargé à blanc. Ses rares moments de courage le conduisent aussitôt à des échecs, lorsqu'il est surpris par le jeune monsieur de GM par exemple. Je saute sur mon épée, elle était malheureusement embarrassée dans mon ceinturon. Les archers qui virent mon mouvement s'approchèrent aussitôt pour me la saisir. Un homme en chemise et sans résistance. Plus tard dans le roman, les soldats qu'il recrute s'enfuient au dernier moment. Il est obligé de payer les archers pour retrouver Manon. Et quand ils fuient ensemble dans le désert, ils ne vont pas loin, leur périple n'a rien d'épique. Le registre comique vient dégrader la dimension épique ou tragique des situations. On a vu que les scènes d'évasion sont comiques, Desgrieux se déguise en orphelin, oublie la culotte du costume, etc. Le père et le frère de Desgrieux ne prennent pas son histoire d'amour au sérieux et se moquent de lui comme le cocu d'une farce. « C'est grand dommage, mon pauvre chevalier, de te faire entrer dans l'ordre de Malte puisque tu as tant de dispositions à faire un mari commode. » Les rebondissements empruntent d'ailleurs directement à la comédie, les domestiques fuyant avec la cassette, le dîner de dupes avec le vieux monsieur de GM où chacun rivalise d'hypocrisie. Mais surtout, comme dans la comédie, l'amour est une école qui donne des ressources aux amoureux. L'amour et la comédie ont en commun cet ingrédient subversif. Ils ne connaissent pas les frontières sociales. Dans l'épisode du Prince italien, Manon se révèle à la fois actrice et metteuse en scène. Elle présente Desgrieux en le tirant par les cheveux. Cela révèle une chose, seule la passion de Manon pour la comédie peut rivaliser avec son amour. Tout au long du roman, Desgrieux annonce une fin tragique. Et pourtant, véritable héros tragique, il ne serait pas là pour raconter son histoire. Desgrieux n'est pas Phèdre, reine d'Athènes poursuivie par la vengeance de Vénus. Le héros ou l'héroïne tragique sont écrasés par des forces qui les dépassent. C'est peut-être plutôt le cas de Manon Lescaut elle-même, qui cite d'ailleurs une tirade d'Iphigénie de Racine, sacrifiée pour que la flotte grecque puisse lever les voiles vers Troie. Mais c'est avant tout ici un roman, libre de mélanger les genres. Pas de développement en 5 actes, pas d'unité de temps, de lieu, d'action, pas de vraisemblance ni de bienséance. En fait, le registre tragique est surtout une stratégie de Desgrieux pour apitoyer et atténuer ses propres responsabilités. Peut-être n'est-il pas si aveugle à son destin qu'il ne nous le laisse croire. La destinée se manifeste sous les traits du hasard ou de la providence. Par exemple, Desgrieux rencontre Manon la veille de son départ pour l'académie. À un jour près, cette histoire d'amour n'aurait pas eu lieu. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquais-je un jour plus tôt, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. Ce coup de foudre a-t-il provoqué le destin de Desgrieux, ou bien est-ce au contraire ce qui l'a écarté de sa vocation de chevalier de l'ordre de Malte, qu'il retrouvera d'ailleurs après la mort de Manon? On peut se poser la même question pour Manon. Si elle n'avait pas rencontré Desgrieux, serait-elle devenue religieuse? À l'époque, la question est philosophique et ou théologique. Pour les protestants comme pour les jansénistes, le sort et le salut des hommes est décidé de toute éternité, c'est la prédestination. Pour les catholiques, chacun peut mériter le salut de l'âme par ses actes, c'est le libre arbitre. Et par ailleurs, en ce début du XVIIIe siècle, la philosophie déterministe, Descartes, Spinoza, séduit les milieux athées et libertins. L'univers entier, jusque dans nos propres actes et nos propres décisions, est le résultat d'un enchaînement de causes et de conséquences. Or des Grieux relate les événements après coup, peu de temps après la mort de Manon et celle de son père. Il va se justifier. C'est un narrateur qui oriente son récit. Le contexte du récit fait toute la saveur du roman. Des Grieux rentre des Amériques à Calais. Il a enterré Manon dans le désert. Il a subi un procès. Il a appris la mort de son père et se rend à son enterrement. À l'auberge du Lion d'Or, Des Grieux raconte sa version des événements. Et Renoncourt nous livre ce récit sans intervenir. C'est donc au lecteur de découvrir, sous le récit autobiographique, la tragédie d'une femme qui n'aura pas réussi à trouver la liberté. C'est peut-être ce qui explique le succès des adaptations à l'opéra de Puccini et Massenet, qui opèrent cette étrange magie en adoptant un point de vue décentré de celui de Des Grieux. Des Grieux a appris la rhétorique scolastique. Il suit des études de théologie, soutient un exercice public à la Sorbonne. Tricheur, il joue avec les apparences et n'hésite pas à mentir pour améliorer son sort. Le capitaine eut la bonté de nous regarder d'un autre œil que le commun de nos misérables associés. Je ne crus pas me rendre coupable d'un mensonge honteux en lui disant que j'étais marié à Manon. Il utilise le registre pathétique pour attendrir ses interlocuteurs, avec des hypotyposes, des descriptions saisissantes et animées. Je lui fis une vive peinture de mes agitations, de mes craintes, du désespoir où j'allais retomber si j'étais abandonné par mes amis aussi impitoyablement que par la fortune. Et les métaphores les plus poétiques décrivent au contraire les effets de la générosité des hommes de bien. Le cœur s'ouvre naturellement en leur présence, comme une fleur s'épanouit à la lumière du soleil dont elle n'attend qu'une douce influence. C'est là l'un des mystères de ce roman. Des Grieux est-il convaincu par sa propre rhétorique? A-t-il conscience de ses propres intentions? C'est ce que Jean Sgar appelle les angles morts de la narration. On distingue un angle mort. Le narrateur peut tout dire, sauf la visée profonde qui était la sienne et qui demeure présente dans le récit. Des Grieux reste soumis à sa passion, à moins qu'il n'ait cherché très tôt à s'en glorifier et en faire le roman. Une question reste en suspens. Est-ce que l'abbé Prévost lui-même croit en son rôle de moraliste? Est-il possible de plaire et instruire en même temps? La littérature, comme Manon Lescaut, est séductrice, c'est-à-dire étymologiquement, elle nous détourne du droit chemin. Plusieurs exemples vont dans ce sens, quand Des Grieux lit l'Énéide de Virgile. La fidélité de Didon n'est pas un exemple pour lui, mais surtout une occasion pour songer encore à Manon. Ainsi, ce n'est pas la littérature qui éclaire la vie, mais l'inverse. Les lumières que je devais à l'amour me firent trouver de la clarté dans quantité d'endroits d'Horace et de Virgile qui m'avaient paru obscurs auparavant. Tiberge, bon moraliste, ne cesse de lui faire des leçons de morale, mais symboliquement, son bateau est détourné par des pirates et il ne parviendra à bon port qu'après la mort de Manon. Je lui appris tout ce qui m'était arrivé depuis mon départ de France et lui déclarai que les semences de vertu qu'il avait jetées autrefois dans mon cœur commençaient à produire des fruits. Manon est le grand mystère du roman. Si Des Grieux est le narrateur et le premier personnage du titre, les lecteurs ne s'y trompent pas et désignent le roman par un seul nom, Manon Lescaut. Des Grieux idéalise certainement l'objet de sa passion. Quel sort pour une créature toute charmante qui eût occupé le premier trône du monde si tous les hommes eussent eu mes yeux et mon cœur. Mais il se présente lui-même comme un jeune homme innocent, aveuglé par l'amour, dont tous les malheurs sont causés par le penchant au plaisir de Manon. À partir de là, l'interprétation est ouverte. Est-ce que Manon est amoureuse ou vénale? Quand elle refuse la première demande en mariage de Des Grieux, est-ce hypocrite? Son argument est juste, la famille de Des Grieux fera tout pour les séparer. D'ailleurs, elle acceptera de l'épouser quand ils seront au Nouvelle-Orléans. Autre fait difficile à interpréter, le père et le frère de Des Grieux prétendent que Manon elle-même l'a dénoncé. Mais il est probable aussi que Monsieur de B l'a menacé. D'ailleurs, Des Grieux le suggère, mais en laissant entendre que c'est un moment d'égarement. Non, disais-je, Manon même, ne le sais-je pas bien? Il l'aura menacée, le poignard à la main, pour la contraindre de m'abandonner. Et en effet, la plus grande partie de la vie et des pensées de Manon sont cachées. Pourquoi est-elle abandonnée par ses parents? Quelle faute a-t-elle commise? Quelle violence a-t-elle subie? Le discours de son frère prouve bien que sa famille a toujours profité d'elle. De même, on ne saura pas ce que Manon a véritablement subi à l'hôpital, mais son état physique nous laisse deviner la maltraitance. Elle me parut pâle et maigre en soupant. Elle m'assura que, quelque touchée qu'elle fût de cet accident, sa pâleur ne venait que d'avoir essuyé pendant 3 mois mon absence. Enfin, Manon apparaît plusieurs fois, lisant, citant des vers, allant à la comédie. C'est un personnage cultivé, dont on ne perçoit pas toute la profondeur intellectuelle. Pour le célèbre critique Sainte-Beuve, c'est le mystère de ce personnage qui en fait le charme indémodable. Manon Lescaut subsiste à jamais, et en dépit des révolutions du goût et des modes sans nombre qui en éclipsent le vrai règne, elle garde cette indifférence folâtre et languissante qu'on lui connaît.